Ce message vous est proposé par Church Team Ministries International Île-Maurice. Que le Seigneur vous bénisse.
Bonsoir à tous et bienvenue dans la maison du Seigneur ce soir. Là où deux et trois, ou trois se rassemblent en mon nom, Jésus a dit, je suis là au milieu de vous. Donc nous sommes assurés de sa présence avec nous et nous voulons compter sur lui, compter sur l'Esprit de Dieu pour agir et emmener la lumière de l'Évangile dans nos cœurs. Connaître davantage le plan de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur, par son Esprit, dit ? Quel message que l'Esprit de Dieu veut emmener à l'Église. Nous vivons dans des temps exceptionnels. La Bible appelle les derniers temps. C'est tellement vrai. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. C'est pourquoi que cela réjouisse nos cœurs, que cela nous réconforte, malgré tout ce que nous pouvons endurer, malgré les épreuves et les difficultés que nous avons à faire face. L'apôtre Paul dit « Consolez-vous par ces paroles ». Quand il parle aux Thessaloniciens pour leur décrire la venue de Jésus, c'est une grande espérance dans la vie du chrétien. Et il dit « Consolez-vous les uns les autres par ces paroles ». Quelles paroles ? Jésus revient. Jésus revient bientôt. Le monde ne comprend pas ce langage. Tout ce que le monde sait, c'est qu'il y a des secousses, c'est qu'il y a des bouleversements. Certains parlent de la fin des temps. Toutes sortes de descriptions. Mais nous, les chrétiens, nous savons que le jour arrive où Jésus-Christ revient. Consolons-nous les uns les autres par ces paroles merveilleuses. Ce qui nous donne la grâce, l'assurance, le courage, la force de continuer et de ne pas arrêter, mais de doublement nous engager à servir le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Hein? N'est-ce pas ces paroles que nous devrons entendre de la part du Seigneur un jour ? Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Nous avons œuvré pour le Seigneur, nous avons travaillé avec lui, nous avons été co-ouvriers avec lui. Nous avons aidé le Seigneur, dans un sens, à construire le royaume de Dieu, à bâtir avec lui son Église. Très encourageant. Il y a des gens qui veulent arrêter l'œuvre de Dieu. Comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? Est-ce qu'ils ont une recette spéciale? Qui pourrait arrêter l'œuvre de Dieu? Jésus a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Personne ne peut s'opposer à ce que Dieu veut. Personne. Absolument personne. Encourageant de servir le Seigneur et de savoir que nous sommes dans la bonne équipe. Nous sommes dans le bon camp. Paul, l'apôtre Paul nous dit que ni les persécutions, ni la mort, ni la vie, ni la faim, ni la nudité, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien ne pourra nous séparer. Amen. Toutes ces paroles sont vraiment, vraiment encourageantes. Bon, je voudrais ce soir, avant de continuer sur notre sujet, notre thème, le cœur du chrétien, vous résumer en 3 versets de la parole de Dieu ce que nous avons partagé hier. Juste 3 versets, on va lire les 3 versets. Et je crois pour tous ceux qui étaient là, ils vont très bien comprendre. Et pour tous ceux qui n'étaient pas là hier et qui nous rejoignent aujourd'hui, bienvenue. Et je vais lire ces 3 versets dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 7, du verset 9, 10 et 11, afin de nous tenir un peu au courant du résumé de tout ce que nous avons partagé hier au soir ici. On est d'accord, Jérémie, chapitre 7, verset 9, 3 versets. Ok, nous parlons du cœur du chrétien. Jérémie, chapitre 7, versets 9, 10 et 11. Ce sera le résumé de tout ce que nous avons partagé. D'accord? Ok. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez pas, puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés, et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, je le vois moi-même, dit l'Éternel. Voilà le reproche que l'Éternel avait fait au peuple d'Israël. Ils adoraient les Baals, ils vivaient dans l'adultère, ils jugeaient faussement, ils offraient de l'encens à Baal, ils allaient auprès d'autres dieux, et comme si rien n'était, après avoir fait tout ça, ils viennent à la maison de l'Éternel. Ils se rebellent contre Dieu, ils désobéissent, ils font autre chose que Dieu leur demande de faire, et ils viennent à la maison de l'Éternel comme si que rien ne s'est passé, que tout est normal. C'est pas ça que le prophète est en train de vouloir nous dire et nous exprimer là. Il dit, vous faites tout cela, puis, en même temps, quel mélange, un mélange, en même temps, vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Ils mélangent leur péché, leur cœur tordu, dur, impur, sale. Ils mélangent tout cela avec la pureté de la maison de Dieu. On ne peut pas servir les seigneurs avec un cœur qui n'est pas droit, qui n'est pas pur. On ne peut pas être hypocrite dans la maison de Dieu. Nous devons servir le Seigneur avec un cœur droit. Nous ne pouvons pas continuer à servir le Seigneur sans prendre compte de l'état de notre cœur, le cœur du chrétien. Laissons le cœur des gens qui sont en dehors du royaume de Dieu, le cœur du chrétien. On ne peut pas vivre de la même manière. Nous avons besoin de prendre compte de l'état de notre cœur avant de se tenir devant Dieu et devant les hommes. L'apôtre Paul lui-même, il dit dans l'épître aux Corinthiens au chapitre 6, je pense, il dit, je ne voudrais pas être disqualifié après avoir prêché l'Évangile. Je ne voudrais pas être disqualifié. Il ne voulait pas servir le Seigneur en vain, de ne pas s'assurer qu'il avait le sceau de Dieu, de l'approbation de Dieu sur sa vie en tant qu'un homme appelé de Dieu, mis à part pour le Seigneur, de s'assurer qu'il ne travaille pas en vain, qu'il ne se présente pas devant le peuple de Dieu et se disqualifier en même temps, mais qu'il est plutôt un exemple et un modèle. Et cela doit être la même attitude de cœur pour tous les chrétiens. Tout le monde. On ne peut pas continuer à servir le Seigneur sans prendre compte de notre cœur. L'Église n'a pas le droit aujourd'hui de prendre cette chose à la légère et d'encourager le peuple de Dieu à faire toutes sortes de choses sans prendre compte de l'état de leur cœur. Ça annulerait tout ce qu'ils font. Ça annule tout. On est d'accord? Ça annulerait tout. C'est important de s'assurer que le cœur du chrétien est en règle avec le Seigneur. Et que nous sommes en paix, comme l'apôtre Paul dit. Soyez en paix avec tous. Et surtout, avec les frères dans la foi. Ésaïe, chapitre 59, verset 2. Le prophète Ésaïe, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est notre péché qui nous cache de la face de Dieu. Notre péché, notre cœur sale, impur, nous cache de la face de l'Éternel. Donc, mes frères, mes amis, c'est important. C'est important que nous nous arrêtons un moment et que nous réalisons l'importance que le cœur du chrétien doit être droit et pur devant le Seigneur. Allons ouvrir notre Bible ce soir dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, au verset 32. Une chose extraordinaire qui se passait au sein de la première Église. Ce qui est, je suis sûr, le désir ardent de tous les chrétiens, quelle que soit l'Église que vous appartenez, c'est un désir que tous les chrétiens ont. Que tous les chrétiens et un même cœur, une même âme, un même sentiment, un même langage. Et nous voyons que ça existait au temps de la première Église, et nous voyons aussi que c'était le cœur de l'apôtre Paul envers l'Église de Corinthe. Quand il leur parle, en leur disant que son désir, c'est qu'ils soient tous animés d'un même cœur, d'une même âme, d'un même sentiment, d'un même langage. Non? Mais pourquoi est-ce que les chrétiens ne peuvent pas, dans cette nation, se réunir ensemble d'un même cœur et servir le Seigneur? Pourquoi? Quel est ce cancer qui existe au sein de l'Église aujourd'hui? Quel est ce mal? Quelle est cette maladie qui existe au sein de l'Église dans cette nation et que le Seigneur a la difficulté de réunir son peuple ensemble, qu'il soit quelle domination que ce soit? D'un même cœur, d'une même âme, d'un même langage, d'un même sentiment, une même volonté, un même désir, en d'autres mots, marcher dans l'unité. Quel est ce mal? Quelle est cette maladie qui existe dans notre nation? Dans l'Église? Ce n'est pas la peine pour moi de vous parler d'ailleurs. Nous sommes beaucoup plus intéressés dans un sens à ce qui se passe chez nous, dans notre maison. On est d'accord? Hein? Quel est ce mal? Quel est ce cancer? Quelle est cette maladie qui ronge l'Église de Jésus-Christ? Pour que les chrétiens n'arrivent pas à marcher dans l'unité. Chacun tire de son côté. Pourquoi est-ce que l'Église est-elle divisée? Pourquoi est-ce qu'elle est si fragmentée? Pourquoi est-ce qu'elle est si en pièces détachées? Même le monde ne comprend pas. Moi, je vous dis, j'ai déjà parlé avec beaucoup de gens du monde que je connais. Ils ne comprennent pas comment les gens de la même foi, quand ils me parlent d'une église ou ils me parlent d'une autre église, ils me disent, mais qu'est-ce qu'est la différence entre cette église et cette église? On n'arrive même pas à décrire. Est-ce que c'est la même foi? Est-ce que c'est le même Jésus? C'est le même Sauveur? Est-ce que c'est le même baptême? Est-ce que c'est le même Saint-Esprit? Et tout ça, on répond oui, oui, oui. Mais où est la maladie? Qu'est-ce qui ronge le peuple de Dieu? Qu'est-ce qui ronge l'Église du Seigneur? Qu'est-ce qui divise l'Église du Seigneur? Est-ce que vous avez déjà essayé de penser une minute? N'est-ce pas le cœur de l'homme? N'est-ce pas ce que l'homme transporte dans son cœur, qui est la cause même de la division, qui est la cause même de tout ce cancer qui existe dans l'Église, cette maladie? N'est-ce pas le cœur de l'homme? N'est-ce pas le contenu de son cœur? Rien d'autre. Rien d'autre. C'est le cœur de l'homme. Quelquefois, je pense, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Les serviteurs de Dieu, les pasteurs, des gens avec toutes sortes de titres, il faut bien que quelque part le cœur de l'homme soit pas droit, soit impur, soit teinté d'une maladie pour empêcher les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, se réunir ensemble et de pouvoir se parler, et de se pouvoir être franc, et de pouvoir se regarder dans les yeux et être intègre et ne pas être hypocrite. Il faut bien qu'il y ait quelque chose dans le cœur de l'homme qui l'empêche de faire cela. Vous avez réfléchi? Est-ce que vous avez réfléchi? Il y a bien quelque chose dans le cœur de l'homme qui emmène, qui génère la division, qui génère la fragmentation, qui génère tout ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui. Ce n'est rien d'autre que ça. Rien d'autre que ça. C'est malheureux. C'est triste. Il faut dire les choses telles qu'elles le sont. Ce n'est plus la peine aujourd'hui, dans les jours que nous vivons, de jouer à l'autruche et de mettre des visières et ne pas voir réellement quel est le mal qui ronge l'Église. Et en même temps, nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Et en même temps, nous sommes tous membres de la même famille de Dieu. Nous avons le même Saint-Esprit qui habite en nous. Oui, nous avons pris le même baptême. Nous croyons dans le même Sauveur. Nous irons tous dans le même endroit un jour. Moi, je me pose la question, je me dis, mais comment est-ce que le cœur des chrétiens se gâte? Comment est-ce que le cœur des chrétiens se salit? Comment est-ce que le cœur des chrétiens s'endurcit? Comment? Qu'est-ce qui emmène tout cela? Certainement pas la vérité de l'Évangile. Certainement pas la pureté de la doctrine de Christ. Il y a un maillon quelque part. Il y a quelque chose qui est transmis. Non ? Il y a bien quelque chose qui est transmis. Je vais vous parler franchement ce soir. Vous savez combien de chrétiens ont des forteresses dans leur tête contre les autres ? Vous savez combien de chrétiens transportent des mensonges dans leur vie, dans leur cœur, dans leur tête au sujet d'autres chrétiens? Ces forteresses, ces mensonges transmis depuis derrière un pupitre, transmis depuis le serviteur de Dieu, le pasteur, dans la vie des chrétiens. Les chrétiens ne veulent pas cela. Mais ils ne peuvent rien faire d'autre que de l'accepter. Dernièrement, j'ai un frère qui est venu me voir, il m'a dit, « Frère Mickey, laisse-moi vous raconter une petite histoire. » Je lui ai dit, « Oui, mon frère, raconte-moi, c'est le bienvenu. » Il me dit, « Tu sais, j'ai partagé la parole de Dieu avec quelqu'un, l'évangile de la croix, ce que ça a fait dans ma vie, dans mon couple, dans mon foyer, dans ma famille, parmi mes enfants. » Et je parlais à ce frère d'une autre église, et je lui ai dit, ah ben tu sais, il me dit, ah ben c'est vrai, c'est merveilleux ce que tu es en train de me partager. Je lui ai dit, ah ben tu sais, je vais t'emmener 2 CD du frère Mickey. Il a dit, non, je n'ai pas le droit, je ne peux pas écouter ce frère. D'où ça vient? D'où ça sort? Où est-ce qu'il a eu ça? Un chat est un chat. Assez qu'un chat est un animal à 4 pattes, parce qu'il y a plusieurs animaux à 4 pattes. Il faut reconnaître le chat et reconnaître le chien. Un chat est un chat. D'où ça vient ça? D'où ça vient que ce frère n'a même pas le droit d'entendre un message du frère Michel Hardy? Ah non, jamais de la vie. Parle-moi, mais jamais je n'écouterai. Mais d'où ça vient ce truc-là? Où ça vient ce mensonge? Où ça vient cette forteresse? D'où ça vient cette déception? D'où? De notre pays? Non. Il y a des chrétiens qui s'asseyent dans les réunions et qui sont en train d'avaler toutes sortes d'accusations, toutes sortes de déceptions et toutes sortes de mensonges. Et il est temps que les pasteurs et les serviteurs de Dieu prennent note. Absolument. Ça serait un scandale de ma part d'empêcher un chrétien d'aller là où il veut. C'est son droit. C'est sa liberté d'aller là où il veut. Et qui peut le retenir? Qui peut retenir quelqu'un? Et malheureusement, les chrétiens sont retenus. Sont retenus. Sont mis en garde. Et en même temps, ils souffrent. En même temps, ils sont découragés. En même temps, ils n'ont plus de boussole dans leur vie. En même temps, ils ne sont pas satisfaits. Leur cœur n'est pas nourri. Ils n'ont pas cette paix intérieure. Ils savent qu'il manque quelque chose, mais ils sont contrôlés. Ils sont contrôlés. Scandaleux! Vous réalisez, si demain matin, je vous dirais, n'écoute pas les CD et les messages d'un frère ou d'une sœur, Je ne suis pas en train de parler de sectes qui vont tuer les gens de je ne sais trop où. Je suis en train de parler des églises chrétiennes évangéliques pentecôtistes. On est d'accord ? Je ne suis pas en train de parler de moonistes. Je ne suis pas en train de parler de ne pas décourager les gens d'aller écouter toutes sortes de gens. Je parle des chrétiens. Je parle des serviteurs de Dieu, pentecôtistes, évangéliques. Si tu veux l'écouter, tu l'écoutes. Et tu feras ta propre opinion. Mais d'où ça vient tout ça? Où ça vient ce poison? D'où ça vient ce poison qui est jeté, qui est semé dans le cœur des chrétiens? D'où ça vient? Les gens peuvent nous faire la guerre. Hein. Mais ça vient tout ça. C'est dans l'air comme ça, vous croyez? C'est comme si ils grandissent dedans. Et les chrétiens, comme ils naissent de nouveau. C'est fou. Comme ils naissent de nouveau, comme ils rentrent dans l'église. Dans la marmite. Tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit, celui-là, ce frère-là, tu n'as pas le droit de l'écouter. Celui-là, tu n'as pas le droit de l'écouter. Tu n'as pas le droit d'aller chez lui. Une séminaire, tu n'as pas le droit d'aller là-bas. D'où ça vient? D'où ça vient? Ça vient des yeux pupitres. Ça vient depuis des yeux pupitres. Et ça pourrit le cœur du chrétien. Ça pourrit, ça salit son cœur. Et les serviteurs de Dieu sont en train de mettre des murs entre chrétiens. Construire des murs entre un frère et un autre frère. Entre une sœur et une autre sœur. La parole de Dieu nous dit que Jésus est venu et qu'il a brisé tous les murs. Tout ce qui nous séparait. Mais il y en a dans le royaume de Dieu qui, au contraire, au lieu de construire, ils construisent des murs. Entre églises, entre chrétiens, entre serviteurs de Dieu, ils élèvent même des murs. Comme l'Allemagne de l'Est et l'Ouest. Construisent des murs. Détruisent la vie des chrétiens. Qui transportent cette semence dans leur cœur toute leur vie. Qui sont pourris avec du mensonge. Et les pauvres chrétiens n'arrivent pas à grandir parce qu'ils en ont contre tel frère, tel pasteur, tel serviteur de Dieu. Parce qu'ils ont été élevés comme ça. Ils ont grandi comme ça. Ils ont été enseignés comme ça. Et puis on veut s'asseoir autour d'une table et prier pour l'unité de l'Église. Et puis on veut prendre le repas du Seigneur ensemble dans l'hypocrisie et croire dans l'unité de l'Église. Mes frères, écoutez-moi bien, mes sœurs. Je ne suis pas intéressé de faire de la publicité pour personne. Personne. Mon désir, c'est de voir l'Évangile de Jésus-Christ changer les vies. Changer la vie des chrétiens et les emmener dans la liberté, et les emmener dans la maturité, et les emmener à servir le Seigneur tel que le Seigneur veut. Mais malheureusement, ils sont pourris. Leur cœur est pourri. Ils ont reçu la semence, ils ont reçu un poison. Et ils sèment la division. Ce qui est dommage, c'est qu'ils grandissent dans cet état d'esprit. Le chrétien grandit dans un état d'esprit. Il grandit avec une vision, une image de frère un tel, une image de pasteur un tel, une image de l'église, telle église. Il grandit dedans. Il est enseigné cette image-là. Il va à l'école. Dans l'église. On lui montre, on lui enseigne. Non pas publiquement à travers des haut-parleurs comme ça, mais surtout en sous-marin. Oui. On enseigne les chrétiens à croire de cette manière. On les enseigne à voir de cette manière. Comme ils voient tel monsieur. La photo est déjà la même. La description de ce monsieur est déjà enregistrée. J'ai rencontré un homme, un chrétien, dernièrement. Et j'ai fait sa connaissance, gentil garçon, super garçon. Vous savez combien de garçons et de fils et frères et sœurs super qu'il y a dans le monde? Ah, il vient me voir, il me dit, bonjour monsieur. Je lui dis, bonjour, je suis frère Mickey Hardy. Il me dit, ah, c'est vous? Je lui dis, oui. Il me dit, ça fait longtemps que je veux vous rencontrer. Je lui dis, mais qu'est-ce qui vous a empêché, monsieur? Vous savez, quand je lui ai dit mon nom, il avait déjà l'image devant lui. Ah oui, c'était clair. C'était clair. Alors il s'est assis là, il m'a dit, je suis heureux de vous rencontrer et de vous connaître et de vous écouter et de vous entendre. Je ne suis pas en train de faire de la publicité. Je suis en train de vous donner un exemple pour vous montrer ce qui se passe dans le cœur des chrétiens. Je ne suis pas en train de faire la pub. Hein. Seulement pour vous montrer. Il me dit, je suis content de pouvoir causer avec vous un peu. J'ai tellement entendu parler de vous. Vous comprenez ce que je suis en train de me dire? Vous avez peur? Hein? Je vous parle de la vérité. La vérité. Les chrétiens grandissent dans une école. Et ils ont le témoignage, l'image de telle église, de tel pasteur, de tel homme de Dieu. Ah oui, oui. Et à partir de cette image, ils vont décider ce qu'ils vont faire. Ils finissent à part avoir peur du pasteur un tel. Ils ont même peur, peut-être, de venir là. Ils ont peut-être peur. Peut-être quelqu'un est en cachette là, je ne sais pas. Ah oui, 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 ils ont peur, ils ont peur. Mais moi, je vous dis une chose. Quand le Seigneur fait son œuvre, l'homme ne peut pas arrêter. Impossible. C'est pourquoi notre rôle, notre devoir, pour contrecarrer l'œuvre de l'ennemi, l'œuvre du diable, c'est lui le grand diviseur. C'est lui qui se sert de Jacques, Pierre, Paul, André pour diviser. C'est lui qui aveugle les gens afin qu'ils ne voient pas la vérité. Et les chrétiens vivent avec ce jugement, cette critique, ce raisonnement, ce mensonge, cette déception dans leur cœur. Je vous pose une question ce soir. Est-ce qu'un chrétien comme ça peut grandir dans le Seigneur? Dans l'état où il est? Dans la manière qu'il il a fini de juger, il a fini de voir quelqu'un tel qu'il est, tel qu'on lui a dit, tel qu'il a appris? Moi, mon désir, c'est que le Seigneur puisse renverser toutes ces forteresses-là. Tous ces raisonnements, tous ces mensonges, toutes ces déceptions, toutes ces images, et que le chrétien devienne libre. Libre. Il y a un contrôle. Il y a un contrôle de la part des pasteurs envers les chrétiens. Un contrôle. Les chrétiens sont contrôlés. Oui. Ils sont demandés de croire certaines choses et de ne pas croire d'autres choses. Et c'est triste que le chrétien n'a plus la liberté de pouvoir faire son propre jugement, son propre discernement. Avant même qu'on lui donne l'opportunité de discerner, de ressentir dans son cœur, déjà, il n'a pas le droit. Il n'a même plus le droit de discerner les choses. C'est déjà établi pour lui. Tout ça, c'est transmis. C'est transmis. Et puis, on forme des associations. On forme des fédérations. Oui. Et on se réunit à la même table. À la même table. Mes frères et sœurs, je suis en train de vous parler du cœur du chrétien. Le cœur, son cœur. Il faut arrêter de voir l'extérieur, la superficialité des choses. Il faut arrêter de voir les gens de l'extérieur. S'il met une cravate, oui, il ne met pas une cravate. S'il a une sacoche ou s'il n'a pas de sacoche. S'il paraît comme un serviteur de Dieu ou non. Il faut arrêter de voir les chrétiens, les pasteurs, les serviteurs de Dieu de cette manière. Il faut commencer à considérer le cœur de l'homme, le cœur du chrétien, ce qu'il transporte dans son cœur, ce qu'il vit à l'intérieur de lui-même, c'est ça la réalité. Tout le reste est faux. La réalité, c'est ce qu'il transporte dans son cœur. Et trop souvent, on met l'accent sur les choses extérieures. Mais nous savons tous que le Seigneur sonde les cœurs, connaît les cœurs, voit les cœurs. Et c'est là où nous avons besoin de vraiment nous contrôler. Donc la première raison pourquoi le cœur du chrétien est gâté, sali, par des semences mauvaises, c'est parce qu'ils l'ont reçu. Et c'est dommage qu'ils ne le reçoivent pas d'un chrétien qui est plus faible que lui. Mais il le reçoit par quelqu'un qu'il regarde comme son berger. Comme celui qui l'enseigne, comme celui qui le guide, comme celui qui l'exhorte, qui l'encourage. Moi, je suis convaincu aujourd'hui. J'ai une conviction dans mon cœur. Une conviction que l'Esprit de Dieu, non seulement est en train d'agir, mais il va continuer à agir. Et qu'il y a beaucoup de forteresses qui vont tomber. Qu'il y a beaucoup de raisonnements qui vont tomber. Et que la vérité de Dieu, de l'Évangile, sera proclamée et entendue. Moi, je suis convaincu. Il y a d'autres raisons pourquoi les chrétiens sont mal. L'immaturité des chrétiens reste toujours enfant, ne grandissent pas. C'est un deuxième exemple. Pourquoi le cœur des chrétiens reste malade? Ils ne grandissent pas. Ils n'ont pas la nourriture qu'il faut pour grandir. Leur cœur se gâte facilement. Ils n'arrivent pas à gérer les choses dans l'esprit. Ils n'arrivent pas à faire face à les situations de la vie dans l'esprit. Ils n'arrivent pas à gérer les circonstances de la vie, leurs problèmes, leurs épreuves, leurs difficultés, leurs relations avec les gens. Ils sont tellement dans l'immaturité qu'ils n'arrivent pas à gérer. Et leur cœur se gâte. Et quand leur cœur se gâte, ils n'arrivent pas à pardonner. Et quand on n'arrive pas à pardonner, le cœur s'endurcit. Et quand le cœur du chrétien s'endurcit, il est mal. Il est dans une mauvaise posture. Ça, c'est un signe. Un signe d'immaturité. Un signe que le chrétien ne peut pas faire face à la vie par l'esprit. Mais il réagit. Il réagit selon la chair. Il ne vit pas par l'esprit. Il vit selon la chair. La Bible nous parle comment les petits renards, qu'est-ce qu'ils font avec la vigne? Ils dévorent. Ils dévorent la vigne. Les petites choses qui se passent dans notre vie, qu'on n'arrive pas à gérer immédiatement. On n'arrive pas. On est dans l'immaturité. On réagit dans la chair. Et les choses se gâtent dans notre cœur. Et toute notre vie change. Toute notre vie change. Combien d'entre vous savent que c'est notre cœur qui nous dirige? Nous sommes dirigés par notre cœur. Nous ne sommes plus dirigés par notre intelligence. Malgré que de temps à autre, il faut réfléchir un peu. Mais c'est vrai, nous sommes tous dirigés par notre cœur. Et si notre cœur se gâte, tout notre être se gâte. Tout ce qu'on fait va être gâté. Rien ne sera bon. Rien. Tout ce qu'on va faire ne portera aucun fruit. Et il me semble que l'Église et les chrétiens ne réalisent pas ces choses-là. On continue dans l'immaturité. On n'arrive pas à gérer les choses dans l'esprit. La chair prend le dessus. Et on continue à servir le Seigneur comme si rien n'était. C'est de l'immaturité. Et notre cœur s'endurcit. Notre cœur se gâte envers un frère. Parce qu'un jour, hier, il m'a dit quelque chose, j'ai pas trop aimé. Oui. Ou bien j'ai entendu quelqu'un parler sur moi. Quelqu'un est venu me dire que ce que l'autre personne a raconté sur moi. Et ça me dérange. Et quand ça me dérange, et quand je prends ça dans la chair, mon cœur se gâte envers une, deux, trois, quatre, cinq personnes. Et toute ma vie est dérangée. Toute ma journée est finie. Ma vie, mes actions, mes pensées, tout se déraille. Rien ne va plus. Rien ne va. Rien ne peut aller. Parce que mon cœur a été gâté. Le cœur du chrétien ne doit pas se gâter. Mais quand il est dans l'immaturité, il n'arrive pas à gérer les choses dans l'esprit, et c'est sa chair qui prend le dessus, et là, il prend une tangente. Une tangente. Et là, mes frères et sœurs, on peut s'habiller, se maquiller, se présenter comme le chrétien le plus charmant, mais rien ne va quand même. On peut sourire quand il faut sourire. Oui. Il ne faut pas que la chrétienté devienne un théâtre où tout le monde se maquille. Et personne n'est vrai, personne n'est réel. Parce que mes frères et sœurs, nous savons ce qu'il y a dedans. Nous savons l'état de notre vie. Nous connaissons quand notre cœur est dur. Nous savons quand on ne peut pas pardonner. Nous savons réellement quel est notre état de cœur. Et parce que nous n'arrivons pas à nous repentir, à relâcher, à pardonner, on se maquille et on est une autre personne. On n'est pas la vraie personne qu'on est. Le cœur du chrétien. Et c'est extraordinaire comment il y a des millions de chrétiens qui vivent dans cet état. Oui, dans cet état. Ils n'arrivent pas à gérer l'état de leur cœur. Et beaucoup ne comprennent pas que toute leur vie est gérée et dirigée par l'état de leur cœur. Ils ne comprennent pas. Et souvent, ils ne comprennent pas pourquoi il leur arrive ceci, il leur arrive cela. Ils ne comprennent pas pourquoi les choses ne s'arrangent pas, pourquoi il n'y a pas de solution pour leur vie. Ils ne comprennent pas. Ils n'ont jamais compris dans leur vie chrétienne que l'état de leur cœur était la chose qu'allait régler, diriger toute leur vie. Oui. Et ils se mettent à enseigner la Bible, ils se mettent à lire la Bible, ils se mettent aller à l'école biblique, ils se mettent à... Ah, mais ils font tout, ils font beaucoup de choses. Mais à l'intérieur dedans, c'est dur, c'est gâté. C'est fou, ça. Mais il y a beaucoup qui marchent dans le péché. Là, maintenant, ça devient un cœur sale. C'est pas juste en Dieu, si. C'est sale. Le péché. N'arrive pas à avoir la victoire dans le péché. Sur le péché, plutôt. C'est comme si qu'ils sont redevables à la chair toute leur vie. N'arrive pas à se débarrasser de la condamnation qui pèse sur leur vie. Et il y a des millions de chrétiens qui ne savent pas quel est le chemin de sortie. Comment s'en sortir de ce piège? Ils n'entendent pas ce qu'ils doivent entendre pour sortir de ce piège. Et ils vivent sous la condamnation. Ils transportent des fardeaux. Parce qu'ils n'entendent pas l'évangile qu'ils doivent entendre afin de sortir de ce piège et être libres. La Bible dit que quand le Fils nous libère, nous sommes réellement libres. C'est pas ça que la parole de Dieu dit? Quand le Fils nous libère, nous sommes réellement libres. Réellement libres. Et il y a des milliers de chrétiens qui marchent toujours dans l'esclavage. Le cœur du chrétien, c'est comme un réservoir. C'est un réservoir qui reçoit. Et le problème, c'est que ça garde. Si on n'arrive pas à se débarrasser de tout ce qui veut s'implanter dans notre cœur, on est mal barré. On est très mal barré. Et c'est fou qu'il y a des chrétiens qui peuvent marcher dans cet état de cœur pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. On les voit aujourd'hui, ils parlent du même problème qu'ils ont eu il y a 4 ans. Ouais. 4 ans. Ils ne sont pas sortis de cet esclavage depuis ce temps. Il y a des chrétiens qui n'arrivent pas. N'arrivent pas, ils sont éloignés, ils sont rétrogradés, ils sont loin du Seigneur, ils n'arrivent pas à retourner dans la maison de Dieu, ils n'arrivent pas à retourner dans la bergerie. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours sur le même problème qu'il y a il y a X années. Donc ils restent bébés toute leur vie. Ils restent des enfants toute leur vie, ils sont langés, ils boivent à la tétine, ils boivent dans les petites bouteilles, il faut les caresser toute leur vie. Eh bien, c'est comme ça. Et les chrétiens, s'ils ne sont pas caressés, ils quittent l'église. Le moment qu'ils sont arrêtés d'être caressés, ils partent. Ils vont chercher une caresse ailleurs. Et ce qui est malheureux, c'est qu'ils en trouvent. Ils n'arrivent pas à comprendre ce que le Seigneur veut faire dans leur propre vie, de les emmener à la maturité spirituelle. De les emmener à être des hommes faits à l'image de Christ. Et ils gardent leur cœur dans cet état. Mais comment ne pas retrouver des chrétiens dévasté. Fini. Découragés. Ils n'ont plus de boussole. Ils ne savent plus s'il faut aller à gauche ou à droite. Le cœur du chrétien, notre cœur, c'est toute notre vie. Moi, je sais, moi. Si le moindrement que j'endurcis mon cœur vis-à-vis de ma femme, je suis mal barré. Je suis mal. Personne ne peut s'identifier avec ce que je suis en train de dire? Oui. Petit renard. C'est comme un petit renard, ça. Oui. Vous savez, ma femme, elle est rapide. C'est comme une espèce de computer qui part dans tous les sens, comme ça. Elle a dit une affaire, elle est partie sur une deuxième affaire. Moi, je suis toujours ici. Alors, elle me dit une affaire, je crois que c'est ça, elle est en train de parler de ça, mais tu ne comprends pas. Je dis, mais reste tranquille. Mais ça fait 5 minutes que je te parle de ça, je ne te parle plus de ça. Et puis, elle est arrivée loin là-bas, je suis encore ici. Là, je dis, alors tu m'énerves, hein. Ah oui. Oui. Personne ne s'identifie à ce que je dis? Non? C'est comme ça? C'est bon? Oui. Mais si je ne redresse pas mon cœur là, et que je ne relâche pas, et je lui dis, ouais, mais elle est super cette femme-là quand même. Je suis cuit. Je suis mal barré. Je suis mal. Un petit renard. Et là, toute ma vie va être affectée. Je ne peux même pas aller prier le Seigneur. Vous pouvez, vous, quand c'est comme ça? Moi, je ne peux pas. Et c'est terrible parce que je ne peux même pas faire semblant. Elle est trop sharp. Mais c'est juste pour vous expliquer certaines choses, pour que vous compreniez que l'état de notre cœur, c'est ça qui nous emmène là où il faut. Nous sommes dirigés par notre cœur. Toute notre vie dépend de notre cœur. Toutes les décisions que nous avons à prendre dans la vie. Moi, je dis toujours aux gens, tu es en colère, ne prends pas de décision. Attends. Laisse la colère te quitter. Parce que le Saint-Esprit ne va pas te parler dans ta colère. Laisse ta colère partir, remets-toi, restaure ton cœur, rétablis ton cœur, relâche, pardonne. Et puis, cherche le Seigneur. Comme ça, ça. Mais si on ne comprend pas la vie chrétienne comme ça, si on ne comprend pas que toute notre vie dépend de notre cœur, les choses qui vont se passer dans notre vie de tous les jours, on ne prend pas cas. Et puis à l'arrivée de la fin de la course, on tape notre tête contre le mur et on se fait une fracture et on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi les choses ne marchent pas dans notre vie. Mais on peut écrire un livre sur la vie des chrétiens. On peut écrire un livre. Pas sur le salut, ni la justification, ni la sanctification, ni le baptême, mais juste sur la vie de chrétien. On peut écrire un livre. Notre cœur se salit, notre cœur s'endurcit, notre cœur se gâte. Il n'y a plus rien à faire. Et vous savez ce qui nous attend quand c'est comme ça?
savez ce qui nous attend quand c'est comme ça? Et nous avons tous expérimenté la même chose. Tous. La fin de ce genre de course-là, c'est le péché. La fin de ce genre de course-là, parce que le diable, lui, il entre par toutes les portes. C'est comme un tir à musquet. Vous fermez la porte, il rentre quand même. Où il a passé, qu'est-ce qu'il fait de son corps pour passer pour cette porte-là, mais il rentre quand même. Vous n'avez jamais remarqué un tir à musquet? Hein? Il y a comme ça d'espace sous votre porte. Lui, il est haut comme ça. Je ne sais pas ce qu'il fait avec son corps, mais il rentre. Le diable, c'est pareil. Tu ouvres une petite porte, il rentre. Et si tu continues, tu regardes la fin de la course, quelque part, le péché t'attend devant. Le péché t'attend devant. Moi, je dis grâce soit rendue à Dieu qu'on connaît Jésus. Hein? On a l'Esprit de Dieu en nous et qu'on veille, on veille l'état de notre cœur, le cœur du chrétien. Où est la solution de tout cela? La solution de tout cela. Je suis en train de vous donner une image vraiment catastrophique de ce qui se passe dans la vie des chrétiens. Et moi, je vous dis, parce que le bon vin, on garde toujours pour la fin. Non? C'est comme ça. Ma vie, la vie de beaucoup d'entre vous ici. Sont le fruit d'un évangile qui a su nous arrêter, qui a su nous mettre sur nos genoux, qui emmène une conviction dans notre cœur. Pour pardonner et se repentir. C'est comme ça que notre vie s'identifie pleinement, pleinement à ce que Jésus a dit à ses disciples. Il leur a dit une condition pour être vraiment son disciple, vraiment pour pouvoir le suivre, être son disciple. Il a parlé d'une vie qui ne doit plus nous appartenir. Ça, c'est un gros problème dans la chrétienté aujourd'hui. Un très gros problème. Parce que souvent, on entend des messages qui sont contraires. On incite les chrétiens à venir chercher un gain dans le royaume de Dieu quand Jésus a dit, si tu veux retrouver ta vie, il faut que tu la perdes. Il faut que tu la perdes si tu veux la retrouver. Mais si tu veux la garder, qu'est-ce que Jésus a dit? Tu vas la perdre. Non? Si tu veux la garder, tu vas la perdre. Et si on veut garder notre vie, on ne goûtera jamais à la maturité. Jamais. Si on veut garder notre vie, nous ne serons jamais sur nos genoux. Si on veut garder notre vie, on n'aura jamais le courage et la conviction et la force pour aller se repentir. On n'aura pas. On va préserver notre vie. On va juste se concentrer sur la connaissance. Mais on ne va jamais être prêt à mettre notre vie sur l'autel et à permettre au Seigneur de faire ce qu'il veut. Jeter nos armes. Jeter nos propres béquilles à nous. Notre propre protection à nous, notre propre sécurité à nous-mêmes. Et de faire confiance à Jésus que lui, il fera de nous ce qu'il veut. Il nous changera, il nous formera. La Bible nous dit, Jacob, j'ai créé, Israël, j'ai formé. Et si on ne veut pas ce genre de vie, on va toujours demeurer la même personne. Et continuer à marcher avec un cœur qui n'est pas droit, qui n'est pas pur, qui garde toutes sortes de vilaines choses. Oui. Vous savez, il y a un temps dans ma vie, il y a un temps dans la vie de beaucoup de gens qui sont là, qui sont des prédicateurs de l'Évangile, où on avait la liberté de pouvoir dire n'importe quoi sur n'importe qui. Mais quand il arrive un moment de votre vie, un moment de votre vie, où vous présentez votre vie au Seigneur, et vous êtes prêt à prendre cette croix et le suivre, et perdre votre vie, il y a un moment donné, par tous les miracles que le Seigneur fait, par toute la manière que le Seigneur vous forme, il y a une crainte qui vient dans notre cœur. Il y a la crainte de Dieu qui s'installe dans notre cœur, et on ne peut pas nous permettre de dire n'importe quoi sur n'importe qui. On ne peut plus. On ne peut plus semer des vilaines choses dans la vie des gens. On ne peut pas prendre nos mauvaises semences et jeter dans le champ, dans le cœur des chrétiens. On ne peut plus. On ne peut plus rentrer en guerre. Si vous voyez où est la solution, c'est la même chose pour le chrétien qui est dans la chair, qui est dans l'immaturité, c'est la même chose. Tant qu'il va préserver sa vie, il va demeurer un enfant. Mais au moment donné qu'il va donner sa vie au Seigneur et permettre au Seigneur de le briser, de le former, de le changer, de le façonner à son image, c'est là où il va commencer à sortir de cet état d'enfant et grandir et rentrer dans une maturité. C'est pareil. Quand on veut préserver notre vie, nous vivons pleinement selon les désirs de la chair. Absolument. Absolument. Selon les désirs de la chair. Mais du fait maintenant de décider, de comprendre et d'avoir cette conviction dans notre cœur que notre vie ne nous appartient plus et que maintenant nous sommes prêts à prendre notre croix et de permettre au Seigneur d'enlever de nous tout ce qu'il a besoin d'enlever et de nous changer, nous serons prêts à faire mourir les désirs de la chair. Oui. Et le Seigneur, par sa grâce, nous aidera. Au fait, quelque part, nous sommes en train de parler d'un chemin, le chemin de la croix. Pas selon la religion, le chemin de la croix où notre vie s'engage, s'identifie à Christ. Et être prêt à souffrir pour lui. Et être prêt à perdre notre vie pour lui. Et c'est là où tout va changer. Et c'est ça qui va redresser notre cœur. Oui. Parce que sur ce chemin de la croix, on ne permettra pas à notre cœur de demeurer dans le même état. On va prendre conscience que toute notre vie dépend de la pureté de notre cœur, de la droiture de notre cœur. Et on ne sera plus disposé à continuer à vivre sans prendre conscience que nous sommes en train d'être rongés par un mal qui est en train de nous détruire. Et c'est là quelque part où l'Église a besoin de retourner à la simplicité d'un évangile puissant, mais qui change les vies, où tous les chrétiens seront offerts un choix. Et où le Saint-Esprit lui-même est capable de diriger chacun à prendre le bon choix et à rejeter le mauvais choix. À prendre la décision avec conviction et assurance, malgré on sait que le prix qu'on aura à payer, Malgré on sait que nous serons dépouillés de beaucoup de choses dans notre propre vie. Mais nous serons disposés de le faire parce que l'évangile qu'on va entendre, l'évangile de la croix de Jésus-Christ, c'est ça qui va nous emmener à prendre ce genre de décision et à demeurer sur ce chemin et à garder notre cœur propre et pur et droit devant le Seigneur. Et voilà notre protection. C'est ça maintenant notre protection. Quelque part, il ne faut pas... il n'y a pas de crainte de Dieu dans le cœur de l'homme quand il se met à prendre ses mauvaises semences et le jeter dans la vie des chrétiens. Et le semer. Où est la crainte de Dieu? Où est la crainte de Dieu? Où est la croix de Jésus-Christ? Où est cette vie? Où est cette vie qu'on a besoin de perdre? Tous ces désirs de protection pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. C'est parce que je désire me protéger moi que je jette une semence dans la vie des autres. On comprend ce que je dis? Oui. Je jette une mauvaise semence dans la vie de quelqu'un pour créer un mur entre lui et la personne que je n'aime pas, qui est une menace pour moi. Et vous savez que vous pouvez être une menace pour les gens à cause de l'évangile que vous transportez, à cause de la foi qui vous anime, à cause de l'évangile que vous êtes prêt de l'annoncer. Et vous devenez maintenant une muraille. Et pour lui, une menace. Et pour lui se protéger, il a besoin d'ériger une menace entre lui, entre vous et la personne. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va dans son tiroir, il va chercher une semence et il le jette. Mais quand on est sur le chemin de la croix, on a la crainte de Dieu et on ne peut même pas espérer de garder des mauvaises semences. Et encore moins de les planter. Et encore moins de les semer. Quelque part, Jésus veut emmener une unité dans les cœurs. Oui. On a lu un verset hier, on a vu que beaucoup refuseront, mais il n'y aura de ceux qui vont accepter. Il y aura de ceux qui ne vont pas continuer à endurcir leur cœur et demeurer orgueilleux, mais qui vont s'humilier et réaliser leurs besoins. Leurs besoins de l'Évangile pour leur propre vie, leur besoin de repentance, leur besoin de s'humilier, leur besoin de régler leur vie. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre pour restaurer l'Église, restaurer son peuple. C'est pourquoi le cœur du chrétien, c'est la base même de l'unité. La base même de la vie de chacun d'entre nous et la vie de tous les chrétiens. Moi, je veux vous encourager. Je veux vous encourager parce qu'il se peut qu'il y ait des gens ici ce soir qui sont confus. Confus de leur état. Confus parce qu'ils ne savent plus quoi penser. Qui croire? Mais il y a une souffrance dans leur cœur. Il y a une souffrance. Il y a un cri. Il y a un cri pour quelque chose de vrai. Il y a un cri pour quelque chose de profond avec Jésus. Il y a un cri pour le servir avec un cœur droit et pur. Il y a un cri pour grandir, pour devenir un homme fait, pour ressentir qu'on ne demeure pas la même personne. Mais on veut grandir avec Jésus. On veut mieux le connaître. On veut sortir de notre esclavage. On veut rentrer dans une nouvelle vie avec le Seigneur. Que vous voulez vous mettre debout avec moi ce soir?
Merci d'avoir écouté ce message. Nous espérons que vous avez été encouragé. Si vous souhaitez nous contacter, veuillez écrire à l'adresse suivante. CTMI, boîte postale 259, Curepipe, Île-Maurice. Notre adresse email, info@reseauctmi.org ou encore sur notre site internet reseauctmi.org. Que la grâce de Dieu continue à vous fortifier et que Dieu vous bénisse.